c'était beaucoup plus interpersonnel, en fait. C'était entre deux personnes. Et je trouve, enfin, pour moi, la vraie cassure, c'est le simple fait que tu passes à une approche un peu systémique, justement, ce mot qu'ils adorent.
Okay, ouais,
où en fait, tout est système. C'est-à-dire que tu n'es pas toi, tu n'es pas juste toi et moi, c'est toi en tant que représentante d'un système, moi en tant que représentante d'un système. Et en fait, moi, je ne suis pas plus VRP du patriarcat que je ne suis VRP de ben, je sais pas moi, des classes moyennes, des carnistes ou de je sais pas quelle autre idée, tu vois. On peut tous se mettre des étiquettes, mais en fait, dans une relation avec quelqu'un d'autre, surtout une relation amoureuse, tu n'as pas envie d'être justement juste réduit à des étiquettes.
Et ça
c'est tout à fait la mentalité féministe de te dire le privé est politique.
Oui,
tout
c'est vrai.
Est politique en fait.
Oui, c'est vrai.
Et c'est là où ça devient, moi je considère que c'est le germe du totalitarisme, de considérer que le privé est politique.
Okay.
Le jour où tu considères que tout est politique et que finalement le moindre acte que tu fais dans ta vie, en fait, il a une valeur politique et que donc, en fait, t'es déjà dans un monde totalitaire. Parce que tout
d'un côté,
prend une certaine forme de symbolique qu'il ne devrait pas avoir.
Aujourd'hui, on voulait parler donc du thème qui était « Peut-on être amoureux à l'époque woke ?» Et je voulais te demander pourquoi t'as proposé ce sujet, c'était quoi l'envie derrière ?
Alors, à la base, en fait, c'est parce qu'on entend beaucoup parler de wokisme. Je travaille un petit peu de temps en temps, j'envoie des articles au magazine L'Incorrect qui ferraille assez régulièrement contre les woke. C'est un thème qu'on entend beaucoup sur YouTube et je me suis dit... Qu'est-ce que ça change, en fait, dans nos quotidiens d'être à l'époque woke, et notamment du point de vue de la thématique amoureuse, en quoi être amoureux à l'époque woke est plus difficile que d'être amoureux aux autres époques. Et est-ce qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose de nouveau et d'inédit, ou est-ce qu'à chaque époque, on trouve une bonne raison de s'affliger sur nos malheurs amoureux en disant, en fait, que non, mais tout ça, c'est spécifique à notre temps, alors qu'en fait, de génération en génération, on s'est toujours plaint d'avoir trop peu de sentiments, trop peu de fidélité, enfin toutes les choses qui pourraient affecter les relations humaines. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème, et du coup, c'est y a-t-il vraiment une spécificité de l'époque woke, et en quoi ces éventuelles spécificités peuvent avoir une conséquence sur la manière dont on peut être ou ne pas être amoureux. Et du coup, la question finale, c'est peut-on être amoureux dans l'époque dans laquelle nous vivons, ou est-ce qu'en fait, beaucoup de choses qui vont de pair avec l'époque woke nous empêchent, par essence, de devenir amoureux. Je propose qu'on commence par parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que l'époque woke est différente des autres époques.
Ouais, c'est vrai.
Et alors, je pense que ce soit toi ou moi, on est né à peu près à la même époque, à un an près, je pense, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et en fait, on a... tous les deux vus, je pense, une transition entre deux mondes. Un monde qui était peut-être avec moins de réseaux sociaux, moins d'Internet, etc. Et un monde où les réseaux sociaux sont partout, dans nos poches, au quotidien, il y a des notifications toutes les minutes, etc. Et je pense qu'on a vécu un peu cette bascule d'un monde vers un autre, d'un monde qui n'était pas encore complètement numérique et digital, jusqu'à le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que ce progrès technologique, en fait, cette évolution technologique, et ce qui a permis aussi de faire du wokisme un vrai sujet, qui ne soit pas, parce qu'en fait, les idées qui sont portées par les woke, elles existent depuis 30 ans.
Ouais.
Mais ce qui en a fait quelque chose d'omniprésent, c'est l'évolution technologique.
Après, moi, avant de dire woke, je dirais d'abord avant tout féministe, qui à la base était un féminisme beaucoup plus égalitaire, répartition des tâches, liberté de la femme, notamment liberté sexuelle, etc. Donc je pense que ça a commencé comme ça, et c'est vrai que cette ambiance-là s'est drastiquement... aggravé du coup justement avec l'omniprésence des réseaux sociaux et la politisation d'un peu tous les sujets en fait, et peut-être même aussi du coup tu vois l'étiquette qu'on se met, les féministes aiment beaucoup se placarder de plein de petites étiquettes, et en fait avec ces étiquettes vont aussi un mode de pensée et des choses à faire concrètement dans sa vie, et notamment genre comment se comporter face aux hommes toute la problématique comment je dois adapter ma sexualité pour pas me vendre au patriarcat ou ce genre de choses, quoi. Ou comment ne pas le laisser boire sa bière tranquillement sur le canapé pendant que j'ai toute la charge mentale, ce genre de choses. En fait, ça a dégouliné, ça a débordé, et c'est devenu, chaque petite chose de la vie courante est devenue, comment t'appelles ça déjà, symboliquement oppressif, quoi, en gros. Donc même si, en fait, dans les faits, c'est pas hyper fou, c'est juste une situation banale de la vie, mais c'est devenu tout de suite symbole de l'oppression, une micro-agression.
En fait, je pense que sans le dire, t'as nommé un des problèmes principaux de l'époque woke, c'est déjà le identity politics. Cette idée que tu fais de la politique par ton identité. Et quand tu dis chaque féministe aime bien se placarder d'un million de petites étiquettes, en fait, les petites étiquettes, c'est autant d'aspects de l'identité d'un individu. En fait, on se crée une identité par les étiquettes qu'on s'auto-colle à soi-même.
C'est vrai.
Et donc, il faut, pour vraiment vivre pleinement dans son identité, montrer ces étiquettes tout le temps. Et donc, on ne peut pas être dans une approche un petit peu, ne serait-ce que détendue ou passive de la politique. La politique, c'est un travail à temps plein, en fait.
Ouais,
c'est vrai. Et ça, je pense, ça fait partie des choses qui irritent particulièrement les jeunes hommes aujourd'hui. C'est qu'en fait, eux, ils ont envie de tomber amoureux d'une fille et de vivre une relation entre deux personnes. Et en fait, ils ne vivent pas une relation entre deux personnes, ils vivent une relation entre deux groupes, deux clans qui s'affrontent par l'intermédiaire de deux individus qui essayent de l'un opprimer et conserver un pouvoir patriarcal, l'autre se battre contre une charge mentale et je ne sais pas quoi. Et en fait, ils se retrouvent écrasés par un poids politique extraordinaire, et on leur dit, voilà, chacun, vous êtes représentant désigné de votre sexe, de votre catégorie sociale, et en fait, tout devient en eux un combat symbolique. Donc c'est un combat symbolique de l'homme contre la femme, de la femme contre l'homme, de les classes aisées contre les classes populaires, enfin plein de choses en fait. Et ils se retrouvent, tout le concept d'intersectionnalité, c'est que, en fait, ils cumulent, ce que ça veut vraiment dire l'intersectionnalité, c'est qu'ils cumulent un paquet d'exigences et de conflits au point que, en fait, ça étouffe tout ce qu'il pourrait y avoir de positif. Le côté amoureux, le côté tendre, en fait, qu'il pourrait y avoir dans une relation disparaît devant tout le reste.
Qu'est-ce que t'appelles, en fait, d'après toi, comment c'était plus ou moins avant, en fait, tout ça, avant qu'on essaye de déconstruire les trucs sociaux, c'était quoi qui rendait cette rencontre ou cet affrontement tendre? C'était quoi, d'après toi, les trucs qui fluidifiaient les interactions sociales, par exemple?
Je pense qu'il y a toujours eu, il y a probablement toujours eu des running gags à l'intérieur des couples. Des petites boutades, des petites moqueries gentilles ou nettes sur tel ou tel aspect. Mais si tu veux, ça gardait une forme de gentillesse, en fait. Chacun des deux savait très bien qu'il était en train, de mettre le doigt sur un truc qui cassait un peu les pieds à l'autre. Mais en même temps, c'était beaucoup plus interpersonnel, en fait. C'était entre deux personnes. Et je trouve, pour moi, la vraie cassure, c'est le simple fait que tu passes à une approche un peu systémique, justement, ce mot qu'ils adorent, où en fait tout est système, c'est-à-dire que c'est pas toi, tu es pas juste toi et moi, c'est toi en tant que représentante d'un système, moi en tant que représentante d'un système. Et en fait, moi je ne suis pas plus VRP du patriarcat que je ne suis VRP des classes moyennes, des carnistes ou de je sais pas quelle autre idée, tu vois. On peut tous se mettre des étiquettes, mais en fait dans une relation avec quelqu'un d'autre, surtout une relation amoureuse, tu n'as pas envie d'être juste réduit à des étiquettes.
Oui, non, mais je vois très bien, parce que j'ai eu comme ça des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit des choses comme en fait je m'éloigne du féminisme parce que en fait quand je suis pas mal de féministes qui essayent de m'expliquer que les hommes sont des violeurs et des agresseurs en puissance et tout, mais en fait dans mon couple ça se passe bien. Et donc en fait il y a cette espèce de double personnalité où d'un côté elles aimeraient en faire plus pour la politique et le système et être militante un peu jusqu'au bout dans leurs réflexions, mais d'un autre côté ça se passe bien avec leur homme et ça vient forcément avec un coût, tu vois, elles vont s'investir dans cette relation, elles vont donner de leur charge mentale, elles vont s'épiler et se raser parce qu'elles pensent que ça lui fait plaisir et elles y voient pas le mal, mais pourtant d'un autre côté elles sont inondées de trucs qui disent ah mais en fait du coup vous faites le jeu du patriarcat et si tu veux il y a cette espèce de culpabilité dans mais moi je m'entends bien avec mon homme, donc c'est ce que tu dis, en fait il y a cette espèce de séparation entre le politique
et le privé.
Enfin, du coup, cette non-séparation. Du coup, ils réunissent tout et
mais c'est tout à fait la mentalité féministe de te dire le privé est politique.
Oui,
tout
c'est vrai.
Tout est politique, en fait.
Oui, c'est vrai.
Et c'est là où ça devient... Moi, je considère que c'est le germe du totalitarisme de considérer que le privé est politique.
Okay.
Le jour où tu considères que tout est politique et que finalement, le moindre acte que tu fais dans ta vie, en fait, il a une valeur politique et que donc, en fait, t'es déjà dans un monde totalitaire. Parce que tout une certaine forme de symbolique qui ne devrait pas avoir.
Ben, je comprends totalement ça, mais d'un autre côté, si, admettons, là, le système, parce que c'est ça un peu l'argument des féministes, hein, le système est moisi, il est pourri de l'intérieur, il a été fabriqué par des gens qui ne vont pas dans notre intérêt. Si on veut changer ce modèle-là, il faut forcément qu'on le change à partir de là où nous, on a le pouvoir, à savoir dans nos propres relations, finalement. Parce que si tu dis, oui, on va changer le système patriarcal, mais qu'en fait, tu fais rien concrètement dans ta vie, tu vas rien changer du tout. C'est un petit peu le principe du développement personnel même, tu vois. C'est genre, avant de changer le monde, change-toi toi-même. Et du coup, moi, je comprends totalement l'idée où les filles, elles voudraient être... elles voudraient être actives dans leur militantisme et dans leur façon de changer la société en commençant par elles. Moi, je trouve ça cohérent, finalement. Mais c'est vrai que c'est...
Oui, mais alors, la vraie question, c'est est-ce que le couple est vraiment le meilleur endroit pour faire ce changement ? Admettons. Mmh. Par exemple, si ton problème numéro un, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui vont à l'université en mathématiques. On est d'accord que c'est pas parce que tu casses les pieds tous les matins à ton copain avec la notion de charge mentale que d'un seul coup, l'université va t'appeler en disant « Vous savez quoi, en fait, vous pouvez venir faire des maths, etc. » Je pense, si tu veux, il y a des domaines où, oui, si tu as envie de faire des maths et que tu considères qu'il y a effectivement des barrières et que tu dis « tu sais quoi, les barrières, je vais les dépasser parce que j'ai envie d'être plus forte que ça et j'ai envie d'y arriver, etc. » Moi, j'ai profond respect, hein. Vraiment, super, j'applaudis demain. Le problème, c'est que souvent, du coup, on en arrive à casser les pieds gratuitement à des gens qui n'ont pas fait grand-chose et qui ne sont pas spécialement... Enfin, on est en train de parler d'hommes tout à fait moyens, là. On n'est pas en train de parler, à la limite, est-ce que Emmanuel Macron a un pouvoir considérable sur la France ? C'est possible. Est-ce que des chefs du CAC 40 ont un grand pouvoir sur l'évolution des mœurs ? Peut-être aussi. Mais là, on est en train de parler de gens qui sont tout à fait normaux, en fait, et qui veulent juste vivre leur vie à peu près normalement, qui n'ont pas des grands plans pour opprimer les femmes, et qui, finalement, voudraient juste avoir une relation amoureuse à peu près acceptable. Quoi. Est-ce que tu considères qu'il y a une sorte d'évolution de la ligne depuis le féminisme des années 70 par rapport au féminisme des woke aujourd'hui ou...
Oui, complètement.
Et sur quels aspects ?
Par exemple, alors, je pense que le premier féminisme, en tout cas celui que moi j'ai suivi et celui que... C'est un féminisme que j'appelle le féminisme masculiniste, dans le sens où c'était tout le délire, si les femmes doivent avoir l'égalité, donc pour avoir l'égalité, on va avoir tendance à promouvoir les qualités masculines. Donc c'est un peu ça l'idée des lesbiennes mal baisées, le cliché de la féministe qui essaye de devenir aussi forte que les hommes, d'avoir un look d'homme, d'avoir des poils, de se réapproprier toutes les qualités masculines pour pouvoir faire la guerre au même niveau, en fait. En gros, c'est ça.
Tu vois, typiquement, il y a une question qui est apparue dans l'époque woke qui, à mon avis, n'existait pas avant.
Ouais.
C'est la question des trans. Je trouve qu'il y a sorte de truc un peu étrange d'ailleurs dans le féminisme. Et tu vois, il y a certaines féministes, je pense à Marguerite Stern en particulier, littéralement ne peuvent pas supporter la version actuelle inclusive par rapport aux trans du féminisme parce qu'elles ont bien compris, entre guillemets, qu'à chaque fois qu'on rajoutait des nouvelles causes dans le féminisme du côté des trans, en fait, on supprimait certaines des avancées pour les femmes.
Ouais, totalement. Ouais, ouais. Mais finalement, pour moi, c'est une suite logique du féminisme qu'elle a suivi. Enfin, une suite logique, peut-être pas, mais en tout cas, à force de masculiniser les femmes et de dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, bah au final, par exemple, Marguerite Stern, je sais pas, mais moi, à mon époque, c'était le type de féminisme de féministe qui disait que non, on n'est pas hystérique pendant nos règles, non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, on peut travailler pareil, on peut être au top des grandes sociétés, girl boss, machin. Et on niait quand même une partie de la biologie. Et à partir du moment où des hommes ont voulu, du coup, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux, donc des hommes qui se disent femmes, finalement, peuvent rentrer dans le délire, à partir du moment où là, on a compris que, ah, en fait, des hommes peuvent rentrer dans nos luttes, mais attends, il y a un problème, il y a un truc patriarcal, il y a un truc... Enfin, tu vois, elles ont compris qu'en fait, non, la biologie avait une importance, et maintenant, bah, du coup, elles ont bifurqué vers le radical féminisme qui dit que, du coup, oui, là, en fait, il y a une importance dans la biologie, et c'est là où je pense que toutes ces femmes-là vont se rendre compte qu'en fait, effectivement, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes, et effectivement...
Mais ce qui est quand même marrant, parce qu'en fait, enfin, si tu veux, une des charges les plus classiques qu'on a contre les gens qui défendent les hommes, la masculinité, la virilité, enfin toute cette sphère-là, bon, moi j'appelle ça l'androsphère en général, pour essayer de trouver un mot français, je préfère ça à manosphère, mais bon, okay. Appelons ça comme on veut, les masculinistes, si tu veux, voilà, admettons.
Ok.
Et ben, ces gens-là, la première chose dont on les accuse, c'est... en fait, de faire de la biologie à fond et d'instrumentaliser la biologie pour leurs idéologies. Et dire, oui, mais les hommes sont plus forts que les femmes, donc les hommes sont meilleurs, donc je sais pas quoi.
Elles appellent ça la biologisation du social.
Je l'ignorais, mais voilà. Voilà. Bon, ok. Et ben, le truc, c'est qu'en fait, on est en train d'y arriver du côté des féministes un peu, j'ai envie de dire, à l'ancienne, enfin, avant woke, on va dire, parce qu'elles sont en train de se rendre compte qu'elles se font bouffer par les woke.
Tout
et qu'elles n'ont pas tellement d'autre choix que d'aller vers ça si elles veulent tenir la ligne et éviter d'être ouvertes à tous les vents et à toutes les nouvelles idées.
En fait, on va revenir à l'amour. C'est-à-dire que, pour moi, en masculinisant les femmes, on les a rendues moins désirables aux yeux des hommes. Et pareil, dans leur délire de déconstruction, elles ont dévirilisé les hommes.
Oui, c'est ça. Il y a eu le parallèle.
Exactement.
En fait, c'est qu'il faut... Enfin,
et aujourd'hui,
je pense qu'il faut regarder
les
deux côtés, quoi.
Ouais, et en fait, aujourd'hui, on est tous des hybrides mi-hommes, mi-femmes, alors que pour moi, l'amour, comme on l'entend, pour moi, c'est le désir est nourri par la différence. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour moi, c'est la complémentarité et donc les différences qui fait qu'on a envie de se lier et de s'associer pour faire une équipe équilibrée, quoi.
J'ai l'impression que ça peut être potentiellement beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut être amoureux de deux choses vraiment opposées. Soit on aime soi-même, on aime le même, on aime l'identique. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu vers ça ou dans ça qu'on est en ce moment. Soit on aime vraiment ce qui est très différent. Mmh. Et c'est en fait ça qui, quelque part, nous pousse aussi à nous dépasser, à aller apprendre ailleurs, à comprendre des choses dans notre propre existence, parce qu'on va se nourrir d'autres choses. Et on accepte complètement l'altérité, en fait. Et j'ai l'impression que, vraiment, il y a deux options possibles. Soit on est dans l'amour du même, soit on est dans l'amour de quelque chose de complètement différent. Et moi, j'ai l'impression que, justement, ce qui a été cassé pendant toutes les deux, trois dernières générations, c'est non seulement... Enfin, même quand on parle de déconstruction de l'hétéronormativité, c'est un mot un peu compliqué pour dire quoi, finalement. L'idée qu'un homme qui est vraiment homme aime une femme qui est vraiment femme, en fait, c'est un peu oppressif. Et c'est un peu bizarre, voilà. Et à cette chose-là, on préfère finalement un homme qui est, un peu plus masculin que les femmes, mais pas tellement, et qui aimerait une femme qui serait un peu plus féminine que les hommes, mais pas tellement, en fait. Quelque chose qui se rapprocherait plus du même et de l'identité, en fait. De l'idée qu'on veut trouver en l'autre la même chose qu'on a en soi-même. Quelque part, on aime un miroir. Et je pense que ce truc-là, l'amour du miroir, c'est quelque chose qui existe depuis le Narcisse, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un mythe hyper profond de notre existence. Et c'est un des ressorts peut-être la société de consommation en partie, que de pousser les gens à aimer ce qu'ils sont, à s'aimer eux-mêmes, à aimer de manière identitaire finalement, plutôt qu'à aimer l'altérité. Parce qu'on aime bien uniformiser les choses. Je ne vais pas me lancer dans une grande critique de l'hypercapitalisme, mais enfin, l'idée, c'est quand même aussi plus tu standardises les choses, et moins d'un point de vue capitaliste, c'est compliqué de gérer une société où en fait les gens sont relativement interchangeables, etc. Et je pense que dans une certaine mesure, le capitalisme a peut-être participé aider, on va dire, au moins cette espèce de convergence entre des traits féminins, des traits masculins, pour essayer d'avoir un peu moins d'écart entre les deux pôles. Je pense que, si tu veux, on est quelque part dans un... Enfin, il y a une sorte de spécificité, peut-être, c'est que les femmes, je pense, aujourd'hui, ne désirent pas authentiquement l'homme féminin déconstruit, etc., qu'on leur vend dans les magazines. Et je pense que du coup, en fait, il y a une sorte de trouble chez les femmes aujourd'hui, parce que on leur a mis un impératif social à désirer ce genre d'homme, mais c'est pas forcément ce genre d'homme qui les fait vraiment vibrer au fond d'elles. Et je pense que du coup, on va peut-être en parler dans un autre podcast, mais toute une partie, en tout cas, des incertitudes et des incompréhensions et du malaise qu'il peut y avoir chez les femmes aujourd'hui, c'est que, en fait, pour beaucoup, elle désirerait quand même avoir des hommes qui ont un petit peu de masculinité, qui ont un peu de musculature, enfin bref, les attributs masculins classiques qui ont toujours existé. Et je pense qu'elles ont du mal à interfacer un désir de certains attributs masculins avec un désir d'une certaine manière de voir le monde, etc., qu'elles ont elles-mêmes. Et donc elles aimeraient finalement trouver un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire... un homme hyper musclé, mais en même temps très gentil et tout à fait féministe, etc. Et sauf qu'en réalité, souvent quand on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, ce qui arrive, c'est le pire des deux mondes. Elle se retrouve avec un homme pas du tout musclé, à épaules de serpent, qui en plus fait semblant d'être féministe uniquement pour avoir des rancards, et à partir du deuxième rancard, jette toutes ses grandes idées à la poubelle, etc. Et ça, c'est un petit peu le stéréotype de ce qu'on peut retrouver à gauche. Enfin, je crois que c'est, évidemment, s'ils appellent pas ça les faux-ministes ou un truc comme ça, les faux-féministes. Enfin, je crois, il y a un truc. Enfin, en tout cas, c'est un archétype extrêmement courant, le type qui fait semblant d'être féministe le temps d'un premier rendez-vous, de deux rendez-vous, que sais-je, et qui ensuite change complètement. Ouais, et au passage, on les retrouve dans la plupart des affaires. Quand il y avait eu l'histoire de la Ligue du LOL, c'était exactement ça.
Peut-être tu expliques en deux mots ce que c'était. C'était un espèce de groupe WhatsApp.
C'était des journalistes qui avaient une sorte de double vie où, d'un côté, ils prêchaient qu'il fallait plus être de féminisme et de déconstruction. Ouais. Et puis, en pratique, ils tenaient des propos misogynes, orduriers, etc. quoi.
Dans leur truc privé.
Et je crois même qu'ils ont participé au harcèlement de certaines journalistes collègues, enfin tout ça quoi. Donc c'était juste pour donner un exemple. Ce que je veux, enfin tu vois, le fond, c'était de dire, en fait, je pense qu'on a beaucoup proposé et mis en avant des hommes qui seraient déconstruits, etc. Parce qu'en réalité, en fait, les hommes, je pense, sont pas vraiment faits pour être des grands militants féministes dans leur quotidien. Et
pourquoi?
Je pense que... non, mais enfin,
pourquoi c'est... d'après toi, c'est pas possible d'être un homme militant féministe?
Non, mais tu peux être militant féministe si tu peux participer. Moi, je pense que tu peux participer dans une certaine mesure au débat sur le féminisme ou des choses comme ça. Après, je pense que là où ça devient potentiellement malsain, c'est que, si tu veux, quand tu as une branche du féminisme qui t'explique qu'il faut tuer des hommes parce que ce sont des hommes, que, enfin, ça, je pense à Scum Manifesto, enfin, il y a quand même des branches du féminisme qui ont une vision extrême du truc. Je pense qu'en fait, la plupart des hommes sont tout à fait OK pour tolérer une petite dose de féminisme. Et je pense que la plupart des hommes seraient les premiers à aller casser la figure à un type qui empêcherait leur copine de rentrer à la fac de maths si elle a envie de rentrer à la fac de maths. Mais pour autant, si tu veux, quand tu vois certains des excès qu'il peut y avoir dans le féminisme, je vois pas comment tu peux être pleinement masculin, sûr de toi, etc. Et en même temps, tenir des propos comme... je veux dire, quand on lit du Pauline Armand, moi, les hommes, je les déteste, on se dit pas spontanément
oui,
que un type qui lirait ça au petit déjeuner va bien. Après, pour revenir sur les woke en particulier, moi, c'est un des aspects que je trouve très spécifique au woke, c'est aussi la culture du trigger, quoi, quelque part. Cette idée générale qu'en permanence, il faut s'émouvoir de tout. Il y a une sorte d'injonction permanente à l'émotion qui est, à ma connaissance, moins vraie dans le féminisme tel que je me le représente des années 70, 80, 90. Quoi. J'ai l'impression que c'était un petit peu moins émotif. Alors après, peut-être que c'est les réseaux sociaux qui favorisent ce côté d'épanchement émotionnel, mais en même temps, quand tu regardes aujourd'hui, en fait, il y a des tas de... Enfin, je pense en particulier à un compte, entre autres, mais tu prends Pépite Sexiste sur Twitter qui, en fait, littéralement, passe son temps à chercher des bonnes raisons de s'indigner de telle marque a utilisé telle couleur pour tel emballage, pour tel... Et ça veut dire que c'est sexiste. Et, enfin, en fait, il y a un moment, je pense qu'il faut revenir à du pratique. J'ai du mal avec une vision un peu politique, mais complètement détachée du pratique. Je pense qu'il faut revenir à du pratique. En fait, s'indigner du fait que le carton de yaourt il soit rose au lieu de bleu, en fait, qu'est-ce que ça fait en quoi ça fait avancer les droits des femmes? J'ai du mal à voir le.
Bah.
Je pense que si tu veux, c'est quelque part, la quantité d'énergie investie là-dedans versus ce que ça permet réellement de produire. C'est un peu un mauvais choix de priorité et du coup ça bouffe beaucoup d'énergie mentale pour finalement pas grand chose quoi.
Alors moi je suis assez d'accord avec ça on va dire, mais la vision que elles ont c'est que de base la société, toi peut-être que tu t'en rends pas trop compte tu vois, mais peut-être que moi ça me touche un petit peu plus, c'est vrai que de base la société a quand même été construite par les hommes et donc pour les hommes. Parce que c'est juste un on va dire un résidu de la façon dont en fait on a évolué quoi. C'est de la même manière qu'il faut qu'on se traîne notre biologie millénaire. Eh bien, on a des automatismes, on va dire dans bon, il y en a qui disent dans la langue, il y en a qui disent voilà dans les couleurs utilisées. Et donc, si tu veux, elles sont plus en mode aujourd'hui les hommes ont de base moins d'empathie pour les femmes. Ce que je trouve pas forcément un argument valable, mais en tout cas c'est ce qu'elles disent. Elles disent les hommes violent et violentent les femmes parce que il y a pas d'échange, il y a pas d'empathie, et ça c'est dû à toutes ces micro détails qui les trigger maintenant parce qu'elles se sont entraînées à les voir, tu vois, elles ont été woke, elles ont été éveillées à la red pill féministe, tu vois, et donc maintenant elles voient les oppressions, tous les petits détails qui font que effectivement c'est toi ça te semble minoritaire et bah pourquoi tu veux changer mon petit quotidien, mais en fait c'est ce petit quotidien qui peut-être te fera plus te rendre compte que effectivement dans la vie de tous les jours t'as des comportements qui ne mettent pas la femme forcément au même niveau. Mais tu sais, c'est devenu tellement naturel et inconscient que t'as tendance à en fait dénigrer une partie des femmes ou pour des comportements féminins juste parce que bah c'est comme ça. Bah, c'est comme
à,
ça.
À cause de mon carton de yaourt.
Après,
non, mais,
après bien sûr.
J'ai envie d'extrapoler si tu veux.
Tu peux extrapoler, bien sûr. Après, la question, c'est où est la. Moi, en fait, je comprends les deux arguments. Après, je suis d'accord, effectivement, par exemple, dans le cas de Pépite Sexiste, par exemple, je suis d'accord qu'il y a certains de ces triggers qui sont complètement ridicules. Mais il y en a d'autres, je les trouve un peu justifiés. Genre, par exemple, des fois, elles se triggerent sur des pubs, je sais pas, d'assurance, où la meuf, elle est à poil dans la pub. Je suis désolée, oui, est-ce que t'as besoin d'utiliser des fesses de femme pour vendre ton assurance, tu vois?
Bah, je sais pas. Moi, je verrais plus le truc dans une approche. Alors, la séduction dans le monde capitaliste, le capitalisme de la séduction pour reprendre Kluskar, ou la théorie de la jeune fille pour reprendre Tikkun. Enfin, tu vois, c'est plus des trucs où je pense que c'est pas des grandes réflexions patriarcales décidées dans des arcanes de pouvoir extraordinaires. Ouais. C'est juste qu'en pratique, ça marche mieux. Et je pense qu'il y a une bonne partie des trucs qui, en pratique, marchent mieux. Et d'ailleurs, tu vois, t'as un peu ce côté-là aux États-Unis, toutes les pubs qui sont hyper woke et tout, parfois se fracassent sur une réalité. C'est-à-dire que une fois qu'on a essayé de déconstruire les mecs qui achetaient du Gillette et qu'on a vu que les ventes de Gillette ont baissé de 10%, et ben en général, au comité exécutif de Gillette, les mecs ils se grattent la tête et ils se disent bon, la prochaine pub on la fait pareil. Et ils disent non, tu vois, parce que logiquement, quand ils voient que ça fait des milliards en moins, ils se disent c'est peut-être pas une super idée. Et je pense que, enfin, tu vois, faut pas non plus imaginer que tous les hommes se sont réunis dans une cave à un moment donné pour faire un grand complot de comment ils allaient opprimer les femmes et tout. Non, et je pense que t'as beaucoup de trucs qui sont juste pratiques. C'est, en pratique, ça marche mieux de mettre une fille légèrement vêtue, on va dire ça comme ça, dans une pub. Quand on veut vendre quelque chose, parce que bah, le public masculin, il est bon public, il regarde la pub et il dit « Ah, c'était bien », et le public féminin dit, soit se ressent en compétition avec la fille qui était légèrement vêtue, soit espère voir en elle quelque chose qui sera son futur. Enfin, bien tu vois,
c'est
plus compliqué.
Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'en gros, ils utilisent, dans la pub, ils utilisent les stimuli ou même les hyper-stimuli, en gros, et qui sont le résultat, finalement, de notre biologie profonde. Et finalement, c'est un peu contre ça que les féministes se sont toujours battues, c'est contre une part de biologie. Parce qu'en fait, finalement, le patriarcat, pour moi, le patriarcat n'est qu'une conséquence logique, et on va y revenir, en fait, de manière totalement logique, c'est une conséquence logique de nos mécanismes biologiques, on va dire ça comme ça, à grande échelle. Toute la culture abrahamique, tu vois, c'est en gros, l'État d'Israël a essayé d'être construit des centaines, des milliers de fois, et à chaque fois, ils trouvaient une raison pour laquelle leur État se faisait corrompre, leur État se faisait... En fait, il y avait plein de raisons qui faisaient que l'État finissait par chuter. Mmh. Et donc, en fait, si tu veux, finalement, le patriarcat judéo-chrétien, pour moi, c'est une sorte de synthétisation de tous les trucs qu'en fait, on s'est rendu compte que, à grande échelle et sur le long terme, ça marchait pas. Et là, pour moi, on est juste en train de vivre la chute d'un autre État, en fait. Enfin, après, eux, c'était des micro-États, tu vois, c'était des sortes de villes. Mais pour moi, il y a une sorte de...
Je suis d'accord avec une partie de l'argument. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on essaie de réinventer la roue.
Oui, si tu veux. Non, mais c'est un peu ça.
Et qu'on repart de zéro, et qu'on se dit on va faire mieux en repartant de zéro,
et qu'en fait
on va reconverger tout doucement vers un truc qui existait déjà,
voilà.
Mais en prenant on va peut-être sacrifier 12 générations sur l'autel de on repart à zéro avant Exactement. De reconverger vers à peu près la même chose, tu vois.
Parce que en fait pour moi on a des impératifs biologiques qui sont un petit peu insurmontable, tu vois. Et pour moi, l'attraction homme-femme...
Après, typiquement, est-ce que justement, la grande idée des woke, c'est pas de nier l'existence d'impératifs biologiques?
Ah, bah si, clairement. Et c'est là où ils se cassent les dents, et c'est à cause de ça que pour moi, l'amour entre les hommes et les femmes aujourd'hui est compromis, justement parce que les woke nient toute cette partie-là.
Pour revenir à un peu notre question de départ, est-ce que du coup... le fait de nier certains des impératifs biologiques veut forcément dire qu'on casse aussi l'amour qui va avec.
Pourquoi ? Pour moi, c'est évident. Parce qu'en fait, la biologie, le plus simple, c'est la reproduction. Pour moi, on ne sait pas à quoi sert la vie.
Je le reformule autrement. Est-ce qu'on n'est pas, en tant que période woke, dans une période post-reproduction ?
Oui, c'est là où j'allais en venir. Pour moi, à partir du moment où tu enlèves le concept de reproduction basique de la vie, évidemment que... Qu'est-ce que tu entends par post-reproduction ?
La reproduction n'est plus une question.
Oui, voilà.
Qu'on ne se demande plus comment on va se reproduire, qu'on ne se demande plus si c'est possible, pas possible, à quel âge, pas à quel âge, dans quelles conditions... En fait, toutes ces questions-là n'existent quasiment plus. Peut-être qu'on est...
Non, ou alors elles réexistent beaucoup plus. Avant, c'était facile. Avant, il y avait un modèle tout fait. C'était tu te maries, t'as des gosses, à tel âge. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, au contraire, on remet toutes ces questions sur la table. Pourquoi il faudrait faire d'enfants? Pourquoi il faudrait pas en faire?
Il faut pas en faire pour sauver la planète.
Oui, ou pour plein d'autres raisons, hein, pour ne pas donner son ventre au patriarcat, pour ne pas, pour ne pas avoir des mâles qui seront des futurs violeurs. Enfin, y a plein...
Oui, c'est vrai, j'ai oui. lu ça une fois ou deux.
Oui, il y a aussi cet extrémisme-là, tu vois. Donc, dans tous les cas, tu peux trouver plein de raisons pour ne pas en avoir.
C'est quand même curieux, non, d'avoir passé des siècles à se demander comment on faisait pour faire grossir la population, comment on faisait pour booster la natalité, etc., pour arriver à la conclusion qu'en fait, non, mais on s'est planté depuis le début, il ne faudrait pas avoir d'enfants,
Franchement, il peut y avoir plusieurs raisons, mais franchement, juste le fait qu'on ait une société déprimée, pour moi, c'est une sorte de suicide collectif, que ce soit, tu vois, que tu peux le prendre...
Le suicide par la non-reproduction ?
Ouais, bah bien sûr. Mmh. En gros, c'est comme les gens qui mangent à devenir obèses jusqu'à en mourir. C'est une sorte de suicide doux. Ne pas se reproduire, pour moi, c'est pareil. Et donc, tu vois, ça peut être dû à l'éco-anxiété, je sais pas exactement, tout le monde a ses petites raisons, mais j'ai l'impression que ne pas vouloir se reproduire, c'est le mal propre. C'est le mot du siècle, quoi. On a peur pour le futur, on est complètement anxieux et traumatisé par je sais pas quoi exactement, mais les gens ont l'air traumatisés. Et donc, t'as pas envie que ton enfant vive la même chose que toi, donc par extension, t'as pas envie que toi, t'as pas envie de continuer dans le futur. Et donc, ne pas te reproduire, c'est une bonne manière de te suicider sur le long terme, quoi, quelque part. Et donc, c'est la négation de la vie même, c'est la négation de la continuité.
Je vais peut-être pousser le truc, je pense que ça va faire hurler certaines personnes dans les commentaires, mais c'est pas grave. Est-ce que la fin de la reproduction, c'est pas mécaniquement la fin de l'amour aussi ?
Oui, bah c'est ça, c'est la fin de la vie, c'est la fin de l'appréciation de toutes les choses qui sont belles dans la vie.
Et non, je pense que l'amour... Il y a des gens qui te diront que tu peux t'aimer sans avoir de finalité reproductive, tu vois.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Tu pourrais très bien imaginer avoir un monde où tu n'as plus d'impératif de reproduction et justement tu en profites pour te faire des week-ends en amoureux tous les week-ends. Tu pourrais, enfin tu vois, ça pourrait être un moyen, une porte vers une magnification de l'amour qui serait.
Ouais, mais j'ai l'impression que quand même la reproduction, alors même si c'est pas forcément un enfant, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même construire quelque chose à deux. Si t'es pas dans l'objectif de construire quelque chose, j'ai l'impression que l'amour, ça reste. Ça peut. Enfin. J'ai l'impression que la reproduction, ou en tout cas fabriquer quelque chose à deux, ça a un truc transcendant. C'est-à-dire que quand t'as quelque chose à t'occuper en plus de toi-même et de l'autre, quand tu construis un vrai truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc beaucoup plus... Ouais, transcendant, je sais pas exactement quel autre mot je pourrais utiliser, mais un truc profondément dans l'amour de la vie. Sans ce truc un peu transcendant, moi je suis persuadée que tu rates quand même un truc dans ta vie, je trouve. Après, c'est peut-être juste ma vision personnelle, tu vois. Mais de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que quand même, fabriquer une famille, c'est un petit peu la base de l'évolution en tant qu'individu.
Ok, bah écoute, c'est assez chouette comme manière de présenter la chose. En fait, c'est marrant, dans la sphère masculine, tu as des tas de gens qui t'expliquent que, par exemple, en fait, c'est l'espèce de peur qu'ils peuvent avoir d'une éventuelle reproduction. Mm-hmm. En gros, je vais dire presque la peur que la fille puisse tomber enceinte, qui va leur donner justement tout le frisson qu'ils vont ressentir au moment des étreintes et tout ça. Tu vois, il y a peut-être une idéalisation aussi. Alors, je ne sais pas à quel point elle est réelle, si tu veux, est-ce que c'est notre génération qui aujourd'hui idéalise parce qu'il n'a pas connu cet impératif de reproduction qu'il y avait avant,
mm-hmm.
ou si c'est juste parce qu'effectivement ils considèrent eux que ça peut-être que s'il y a certains types, ça les fait effectivement ils ressentent quelque chose de spécial en se disant imagine elle pourrait être enceinte.
Donc attends, j'ai pas compris, en gros t'es en train de me dire qu'il y a des gars, ils aiment le frisson que c'est de coucher avec le risque que la femme tombe enceinte. Ok, ouais, bien sûr.
Alors, en fait, si tu veux, il y a quelque chose de presque surnaturel et mystique qui pourrait advenir, tu sais.
Ouais.
Ils ont l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose de différent par rapport à d'habitude. Mais en fait, on ne sait pas. Peut-être que il peut se passer quelque chose. Tu vois.
Ouais. Dans le livre, j'ai un livre qui explique aux femmes à comment tomber enceinte, en gros.
D'accord.
Toutes les petits trucs et astuces pour tomber plus facilement enceinte. Et en fait, au tout début du livre, elle est en mode... Coucou les meufs, bienvenue. Non, c'est en anglais, donc c'est pas du tout ça qu'elle dit, mais elle dit franchement, bienvenue dans ce livre, vous allez voir, si vous voulez des enfants, c'est là que la partie fun commence, parce qu'il n'y a rien de plus transcendant et de plus plaisant que de faire l'amour dans l'optique d'avoir un enfant. Genre là, le fun commence. Et elle dit que les moments où elle faisait l'amour spécifiquement dans le but de concevoir un enfant, c'était les trucs les plus waouh. Et donc c'est peut-être ça, tu vois, le frisson justement de what if. Et c'est ça qui me fait vraiment pencher sur le fait qu'il y a un truc transcendant, il y a un truc spirituel dans le fait de faire des enfants, ou du moins de créer une famille, ou du moins de fabriquer, de faire quelque chose dans le but de perpétuer, tu vois. Il y a un truc touchant dans le fait de se voir mélanger avec la personne qu'on aime, tu vois, et fleurir une nouvelle porte de conscience qui s'ouvre comme ça et que c'est toi qui le façonne. Moi, franchement, je pense qu'il y a un truc vraiment qui t'élève spirituellement, même si
de base... Et qui aussi te permet de cultiver, en fait, un amour, un amour filial, si tu veux. Enfin, je vais pas refaire l'étymologie grecque, mais tu as plusieurs types d'amour, mais tu as un amour filial en particulier, et celui-là, c'est quelque chose que tu ne trouveras pas vraiment ailleurs, en fait. Et je pense que passer du temps avec ton petit cousin ou ton... Tu vois, il peut y avoir des choses comme ça à l'intérieur de la famille, mais je pense que c'est pas du tout la même chose quand tu le vis toi-même avec tes propres enfants, la chair de ta chair, quoi.
Ouais.
Et peut-être que justement, c'est encore un des points qui diffère entre les woke et cette vision un peu traditionnaliste là, qu'on a évoquée. C'est le fait que les woke sont beaucoup dans la haine de la haine, finalement. Ils n'aiment pas les gens qui n'aiment pas. Ils détestent les antiracistes. Mais pour autant, c'est pas parce que tu détestes quelque chose qui est dans la haine, par exemple, que tu es toi-même dans l'amour, en fait. Je trouve que les woke sont pas très... tu sens pas des gens bienveillants. Tu vois, c'est souvent des gens qui ont l'air un peu tristes, qui sont un peu... Tu sens une sorte de malaise quand même quand tu passes ton... prenons même certaines des féministes un peu en vue, il y en a beaucoup, tu te dis pas spontanément qu'elles ont l'air d'avoir des vies exaltantes. Je pense en particulier à une certaine Titiou Lecoq qui avait expliqué qu'elle faisait du partage des tâches au moment d'emmener son enfant chez le médecin, etc., et qui avait préféré que son enfant ait potentiellement un tympan abîmé plutôt que de prendre son rôle de mère à ce moment-là. C'est pas parce qu'on déteste le patriarcat dans son couple qu'on en développe une forme d'amour. Tu vois, et je pense que c'est un truc qui a échappé un peu au scope des woke, c'est que, en fait, le wokisme, par une certaine... dans une certaine mesure, est déjà opposé à l'amour, en fait, dès le départ.
C'est marrant, tu sais, ça me rappelle beaucoup 1984. Je l'ai relu l'été dernier.
Ouais.
Et tu sais, il y a vraiment cette espèce de négation de la famille. Enfin, tu sais, il y a toute une histoire où, tu sais, même tes enfants peuvent te dénoncer. Il y a un petit peu ce côté... on enlève vraiment les trucs hommes et femmes et juste on te met avec quelqu'un par désignation, quoi, et tu fais des enfants par devoir pour le parti. Et donc, il y a vraiment, effectivement, cette absence un peu d'amour. Enfin, tu sais, il y a ce truc froid, plat, triste, qui est vraiment effrayant, moi, je trouve, dans ce bouquin.
Mais quelque part, un truc qu'on retrouve
qui
aussi...
Qui se retrouve totalement, aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment ressenti ça.
Un woke, qu'est-ce qu'il te propose comme solution pour régler les problèmes de désaccord d'opinion, c'est d'aller t'inscrire sur un site de rencontre féministe militant et de répondre à des questions et d'utiliser les algorithmes pour te rapprocher de gens qui sont comme toi. Enfin, je veux dire, en pratique, c'est un peu ça la solution.
Et encore. Et encore, parce que ça dépend à quel niveau t'es de militantisme et ce que même tu vas te mettre finalement avec un homme, tu vois. Bon, c'est vraiment...
D'ailleurs, c'est pareil, ça fait partie du sujet. Enfin, si on a deux minutes, je veux bien qu'on l'aborde aussi.
Vas-y.
C'est cette idée que la solution à l'hétéronormativité, le patriarcat, etc., c'est d'arrêter d'être hétérosexuel, comme si... Enfin, en fait, les mêmes personnes qui d'un côté te disent que tu n'as pas choisi d'être gay, que tu l'es de naissance, te disent que, en fait, tu peux choisir d'être gay pour des raisons politiques. J'arrive pas à comprendre le concept.
Pour moi,
comment
ça,
tu vois ce truc-là ?
C'est encore la confrontation entre les anciens LGBT féministes et les nouveaux, en fait. Parce que moi, je pense que j'ai grandi à une époque où, en gros, l'argument pour faire accepter les LGBT, je crois qu'à l'époque, c'était juste LGBT, je crois que ça a commencé LGBT, mais bon, bref, c'était transsexuel à l'époque, tu vois, c'était pas transgenre. À l'époque des LGBT, l'argument, c'était We are born like this, c'était la chanson de Lady Gaga, tu vois, c'est genre, on est né comme ça, c'est biologique, il y a un moment dans la conception du fœtus où t'as un pic, normalement, de testostérone ou d'œstrogène qui se fait pas bien à cause du stress ou des trucs comme ça, et en général, ils commençaient à étudier aussi les familles nombreuses, des tribus, etc., et ils se rendaient compte que, en fait, les sociétés qui avaient développé certains individus homosexuels survivait mieux parce que en réalité ça mettait une femme, enfin en gros il prenait le rôle d'une femme où il aidait la famille, etc., mais en même temps il avait la force d'un homme, donc en gros c'est les avantages d'un homme à une place d'une femme, et en fait ils aidaient leur mère en gros à élever toute la marmaille, quoi. En gros c'était un petit peu ça le délire, et puis il y a tout le côté culturel aussi, genre quand t'as pas besoin d'avoir de descendance physique, t'as une descendance artistique et culturelle qui est incroyable, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'artistes qui sont homosexuels, parce que pour moi, c'est un petit peu leur place quelque part dans la société aussi.
C'est leur manière de transmettre quelque chose.
Exactement. Exactement. Mmh. Et donc, en fait, pour moi, j'ai grandi avec cet argument-là que je trouvais totalement légitime, etc. Et en fait, là, on est rentré donc dans l'intersectionnalité, le 100% culturel. Et donc, à partir du moment où tout est 100% culturel, ben, effectivement, tu peux dire des trucs du style on peut choisir l'orientation sexuelle, on peut choisir son sexe, on peut choisir son genre. Enfin, non, peut-être pas choisir son sexe, mais en tout cas, tu peux choisir ton genre. Et en fait, plus aucune vérité biologique n'a d'importance.
Oui, c'est ça.
Et donc, bah, tu te retrouves... Donc, pour moi, ces deux... Et pour moi, les anciens gays sont totalement en opposition aussi avec la nouvelle génération, qui sont en mode... Non, mais en fait, on est gay juste parce qu'on le veut, quoi. Tu vois ? Parce que justement, ça détruit tous leurs argumentaires qui leur permettaient de donner des arguments aux conservateurs, finalement. Qui, eux aussi, sont... prennent quand même un minimum la biologie pour ce que c'est, quoi. Donc, non, pour moi, il y a vraiment un clash des générations qui commence à se faire parce que, voilà, quoi, les trucs ne sont plus du tout en cohérence.
Et dans ce clash de générations, donc, comment tu verrais, toi, les évolutions des rapports hommes-femmes ? Est-ce que tu penses qu'il y a des... En fait, on va basculer complètement dans une vision woke, ou est-ce qu'on va peut-être avoir un retour vers la version précédente, ou peut-être une voie d'échappatoire vers une vision très conservatrice, très traditionnaliste? Parce que c'est un phénomène que je trouve intéressant aussi, dont on parle quasiment jamais, et je trouve que c'est intéressant d'en parler là, c'est l'espèce de retour vers la religion et vers la tradition.
Mmh.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une frange pas négligeable de jeunes qui ont entre... 10 et 25 ans, on va dire, et qui sont beaucoup plus impliqués dans les scouts, les messes en latin, quelque part tous les trucs traditionnalistes qui existent, que ce que sont leurs parents. Et je trouve que c'est assez amusant, parce que tu vas dans une église pour aller à la messe, en dehors des grandes occasions de Noël ou de Pâques, hein, je parle d'une messe moyenne d'un dimanche ordinaire, tu verras que tu as des plus de 60 ans, assez peu de gens entre 30 et 60, et beaucoup de gens en dessous de 30, en fait.
Mmh.
Et donc, peut-être qu'on est en train de... Enfin, c'est... De voir une sorte de retour vers... Parce que les gens qui veulent encore avoir des familles traditionnelles, avoir des enfants, etc., est-ce qu'au fond, leur solution à eux, c'est pas d'aller chercher, en fait, un modèle qui marche, qui a passé plusieurs siècles à marcher, qui a peut-être des défauts, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait, mais qui, quelque part, a fait ses preuves. Mmh. Alors que le modèle woke, on sent bien qu'intuitivement, quand même, qu'il est fluctuant, qu'il varie en fonction des moments, en fonction des arguments.
Pour moi, surtout, il n'a pas de but, il n'a pas de goal. Par exemple, Je rêve d'un jour pouvoir poser à une vraie féministe cette question.
Féministe woke, hein, on précise.
Oui, féministe woke. Ouais. C'est quoi l'objectif d'un monde et d'un mec déconstruit? Genre, c'est quoi votre objectif? En fait, c'est quoi l'image que vous me vendez? En fait, c'est où le but? Parce que moi, ce que je vois, c'est que les trucs sont tout le temps fluctuants parce qu'il n'y a pas du tout d'objectif. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On déconstruit à tout va, mais en fait, il n'y a pas de... Il y a ni de cohérence biologique, ni de cohérence... Il n'y a pas de modèle... qu'on nous vend, en fait. Et c'est ça que je trouve...
C'est bien ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle en creux, par
oui,
la négative.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas un macho, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut,
ouais,
tu vois. Et c'est...
À quoi ressemble l'opposé.
À quoi ressemble l'homme féministe déconstruit idéal. Dès qu'on essaye de l'incarner, on a du mal, tu vois. Parce que dès que tu commences à dire « il devrait ressembler à ça », t'as toujours quelqu'un pour dire « ça va pas, c'est pas suffisant, c'est pas assez, c'est trop, c'est...
» Après, moi, je pense aussi le fait que les jeunes se... Pour moi, il y a plein de facteurs pour la raison pour laquelle les jeunes se tournent beaucoup plus vers la religion et vers les anciens modèles trucs. Bah, déjà, il y a... En fait, les woke partent tellement dans leur... En fait, si tu veux, il y a une clanisation, ça se dit. Enfin,
ouais,
genre, ça
dit,
fait
ouais,
des clans, une clanisation de la société, où en gros, maintenant, si t'es pas woke à fond, bah, tu te fais traiter de facho très, très rapidement, en fait.
Ah oui, oui.
En gros, et les gens, je pense aujourd'hui, surtout les jeunes, sont très seuls, et ils ont besoin de se trouver une étiquette, de se trouver un clan. Donc déjà, pour moi, plus tu... À force de te faire traiter de facho juste parce que ton bon sens te dit que oui, effectivement, ce serait comme ça que tu draguerais la femme de ta vie, bon bah, tant qu'à être étiqueté facho, autant aller faire des trucs de facho, tu vois, qui ont fait justement leurs preuves, etc. Donc tu vas automatiquement
alors, non,
te...
Ouais, enfin bon, moi je veux bien qu'on mette facho à toutes les... On est d'accord qu'on
non, mais t'as compris.
Dit ça de manière rigolote.
Oui, bien sûr.
Parce que...
Non, mais bien sûr, c'est parce que une fois que tous les antifa, ils t'ont dit...
Il y avait des socialistes ou des communistes tout à fait bien comme il faut qui avaient une femme et des enfants. Je veux dire, Marx avait une
mais
femme et
sûr.
Des enfants. Bon,
mais tu sais que, je sais plus, c'est Fabien Roussel qui a juste dit il aime le saucisson et ça y est, c'était un facho, quoi.
Bon, ok, d'accord.
Tu vois,
okay.
C'est dans ce sens-là okay, que okay, je dis... Okay. Une fois que, genre, Fabien Roussel s'est fait étiqueter facho parce qu'il dit vive la viande... Il y a un moment, le gars, il est en mode, bon, bah, c'est bon, j'ai déjà été,
été
étiqueté. Autant, mais là, je te parle même pas de
oui,
Fabien
oui,
Roussel,
non,
je te parle
bien,
du
okay,
gars lambda. Bref, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une clanisation des positions, en fait, et une extrémisation aussi. Tu peux de moins en moins être dans le middle ground, dans le ventre mou qui a pas trop d'avis, parce que tout
ah,
est tellement...
Tu te fais prendre un parti tout le temps, en fait.
Exactement.
On te demande toujours ton avis sur tout,
exactement,
et on te demande de réagir à tout, en fait. Donc,
voilà. Donc, en fait, donc, déjà, t'es obligé de un peu bah, prendre ton parti. Mmh. Je pense que il y a de ça, mais je pense aussi qu'il y a une vraie désillusion de la nouvelle génération. Si tu veux, toute la génération de mes parents et tout, ils ont vécu dans un monde qui était beaucoup moins anxieux, enfin peut-être pas moins anxiogène, mais du moins on était beaucoup plus je sais pas, il y avait une joie de vivre, quoi. Il y avait un futur possible, il y avait une sécurité.
Alors
y
c'est
avait...
paradoxal parce que je suis pas d'accord avec toi et en
ah
même
ouais
temps je suis d'accord avec toi sur la conclusion.
Ah ouais, ok.
Genre je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait c'était des gens qui vivaient pendant la guerre froide.
Et oui, bon.
Ils avaient. Attends, t'as vu les textes de mecs qui te parlent de la peur nucléaire et de etc. dans les années 60, 70, 80.
Oui.
C'était un vrai truc, en fait.
Ouais, bah, bien sûr.
Des gens qui flippaient, qui achetaient des bunkers pour construire dans leur jardin parce qu'ils avaient peur d'avoir un hiver nucléaire du jour au lendemain.
Ouais, bah,
et
bien sûr.
En même temps, moi je pense que cette espèce d'angoisse, elle avait été canalisée et transformée dans un truc positif, tu vois.
Ouais, productif.
Genre cette peur
quoi.
De la... En fait, on peut mourir, en fait, au bout d'un moment, elle avait été apprivoisée et elle avait presque été transformée en un truc positif. C'est que contre la mort, ils allaient avoir des enfants. Contre la mort, ils allaient continuer à vivre comme si de rien n'était. Et ils allaient être heureux, tu vois, envers et contre tout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme on est dans des peurs de la mort qui sont vachement moins franches, ben en fait... Il n'y a pas de réaction par rapport à ça, tu vois. Typiquement sur le Covid, ça aurait pu être intéressant. Il aurait pu y avoir, j'en sais rien, hein, mais il aurait pu y avoir une réaction à l'issue des confinements littéralement, d'orgie en place publique, de jeunes qui, après 3 mois enfermés à la maison, disent « Non, mais moi, je vais vivre ma vie à fond. J'en ai plus rien à faire. Tous les soirs, je vais sortir. » Et si j'ai 12 enfants avec des inconnus, je m'en fiche. Ça aurait pu être ça, tu vois, la suite logique. Si tu reprends ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les hommes sont revenus du front et que, ah, ça y est, on revit comme avant, c'était un peu ça l'ambiance, je pense, tu vois. Alors peut-être pas dit comme ça, mais il y avait un peu de ça. Et là, ça ne s'est pas produit. J'ai pas l'impression que ça se soit produit. Et je pense, on va avoir les chiffres progressivement, mais j'ai pas, je pense qu'en fait, ça a plus éloigné les gens, mais comme c'était pas, c'était un peu diffus, un peu pas très clair, en fait, les gens ont plus peur les uns des autres qu'ils n'ont envie de compenser, tu vois. Ouais. Et donc, il n'y a pas eu cet effet retrouvailles, etc. Et je pense, il y a de la peur aujourd'hui, comme il y avait à l'époque de nos parents, mais en fait, cette peur, elle n'est pas transcendée, elle n'est pas transformée en autre chose. Et donc, bah, on se retrouve avec une peur qui conduit à rien. Et donc, il n'y a pas cet impératif de reproduction. Et donc, on se fait peur pour avoir peur, mais on n'en fait rien, en fait.
Ils avaient une réaction différente. Parce qu'ils
réagissaient franchement à quelque chose, alors que nous, en fait, on est amorphe. C'est la génération amorphe, quoi. On ne réagit pas.
Est-ce que tu as une idée de petite conclusion qu'on pourrait faire ?
Est-ce qu'il y a une spécificité de l'époque woke ? Oui.
Bah, du coup...
On a donné certains de ces détails.
Oui.
On a expliqué qu'il y avait le côté trigger qui était un peu spécifique.
Ouais.
On a expliqué qu'il y avait des évolutions technologiques, notamment les réseaux sociaux, qui rendaient cette période un petit peu spécifique. On a expliqué qu'elle s'opposait par rapport aux générations précédentes et que en ça, c'était un peu spécifique aussi, même si...
Elle s'oppose aussi dans la réaction, dans ce que tu disais, dans la façon dont on réagit à l'anxiété et au futur, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a ça aussi. En fait, on a plus envie de se suicider que de faire plein d'enfants pour continuer la vie malgré tout, tu vois.
Et après ça, une fois qu'on a dit ça, si tu veux, la question, c'était est-ce que on peut encore être amoureux dans cette époque ? Ben, peut-être, mais peut-être pas en suivant les woke. Tu vois, moi, c'est un peu ma conclusion.
J'espère, quoi. C'est plutôt ça, mon... J'espère qu'on peut.
Je pense qu'on peut toujours. Mais je pense qu'il faut trouver des gens qui se protègent un petit peu de toutes les dernières folies des réseaux sociaux du moment, de toutes les hystéries qu'il peut y avoir, des nouveaux mots qu'on invente pour décrire des nouveaux crimes, entre guillemets. Je veux dire, on est à une époque où tous les 3 mois, tu as un nouveau mot qui apparaît et on t'explique que c'est vraiment le pire truc au monde, le manspreading, le manterrupting, enfin bref, tous ces trucs-là. Et je veux dire, depuis manspreading et manterrupting, il y en a eu 1 million d'autres qui se sont rajoutés. Et je pense qu'il faut trouver des gens qui sont un petit peu à l'écart de certaines de ces dérives et qui ont réussi à se préserver un peu de tout ça. C'est pas évident, hein. Enfin...
Mais c'est pour ça que je dis j'espère. J'espère que les gens qui ont toujours cette envie profonde de vivre et de continuer la vie trouveront des gens qui ont réussi à se préserver aussi. Parce que, en fait, moi, si tu veux, il y a ce truc de... je pense sincèrement que c'est... en faisant des enfants qu'on a envie de protéger la planète, qu'on a envie de... En fait, on a... je sais pas comment dire, la transcendance du fait d'avoir une descendance fait que tu vas plus te donner... Parce qu'en fait, le truc amorphe...
Moi, j'aurais 45 ans, j'aurais pas d'enfants, j'aurais aucune perspective d'en avoir.
Voilà.
Je me poserais pas la question de savoir si ma Porsche 911 pollue ou pas, tu vois.
Exactement.
Enfin, je me dirais, j'en ai plus rien à faire. De toute façon, je fais ce que je veux, je claque mon argent comme je veux, et puis ils se débrouillent.
Bah ça, c'est un des côtés que j'aime pas trop chez les MGTOW. Enfin, les MGTOW, ils ont beaucoup ce truc ultra-capitaliste, juste je profite, j'ai de l'argent, des putes à volonté, et que le monde meure... après moi, ça me dérange pas, tu vois.
Oui, mais ça, c'est une réaction à une partie de, justement de l'amour woke, tu vois. C'est une réaction à une partie de l'amour, mais sans objectif, etc.
Mais du coup, c'est des woke de l'autre côté, puisqu'ils sont aussi dans une volonté de non-reproduction et de
mort lente. Avant tout, c'est une volonté d'auto-préservation. Si tu veux. C'était ça le point de départ. Je sais que ça a peut-être divergé depuis, mais à la base, c'était ça l'idée. C'était l'auto-préservation. Et donc, à la base, l'idée, c'est de dire, bon, globalement, si je me marie, etc., ben, en fait, une chance sur deux, ça finit en divorce. Je ne vais pas avoir de descendance parce que la plupart des femmes aujourd'hui ne veulent plus avoir d'enfants, etc. Bon, mais attends, du coup, c'est quoi mon intérêt à faire des efforts, à faire des sacrifices ? Ben, en fait, pour rien.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est ça le point de départ. La grande idée, si tu veux, de départ, c'est qu'on a dépassé le stade où faire des efforts pour se marier, avoir une femme, une famille, etc., ça fonctionnait.
C'est plus rentable, quoi.
C'est un monde post-moderne, en fait. Les mecs sont partis du principe qu'on était dans un monde post-mariage, que le mariage n'existait pas. Ils se sont dit, bon, bah, dans un monde comme ça, comment on fait ? Et c'est pour ça que tu en arrives à une solution qui souffre exactement des mêmes défauts
oui.
que certaines des choses qui sont proclamées par les woke. Parce que techniquement, ils s'opposent et ils réagissent à une situation nihiliste en proposant une autre forme de nihilisme.
Clairement.
Voilà. Ouais. Le truc, c'est que, en fait, c'est aussi un sentiment d'échec, parce que dans le premier manifeste MGTOW, ce qu'il y avait à la base, c'était une volonté de réinstaurer la masculinité chez les hommes et la féminité chez les femmes, et en fait de retraditionnaliser la société. Et okay. ça, c'est la partie qui, à ma connaissance, a plutôt échoué, en fait. En fait, on ne veut pas trop se le dire, mais les évolutions du manifeste MGTOW, de tout ça, si tu regardes, en fait, il y a eu des échecs, notamment de ce côté-là, c'est que, en fait, le retour de la famille traditionnelle, c'est un truc qui n'a pas vraiment marché.
Ouais.
Ils ont essayé aux US et ça n'a pas tellement fonctionné. Je ne dis pas que c'est impossible. Moi, je pense qu'en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des mini-enclaves de familles traditionnelles, de sociétés traditionnelles qui vont exister et qui vont perdurer. Mais je pense qu'à l'ensemble de la population, dire que tu vas d'un seul coup claquer dans les doigts et revenir, rebasculer dans un monde traditionnaliste, ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas vrai. En tout cas, ça ne se fera pas comme ça.
Non,
c'est, je pense qu'à la limite, c'est plus logique de se dire il y aura des enclaves traditionnelles qui auront 5 enfants par femme et qui, en fait, dans 3 générations, 5 générations, auront le pouvoir sur le reste de la société. Et ça, ça me paraît beaucoup plus crédible que dire on va retraditionnaliser les différentes catégories de la population en amenant un message traditionnaliste.
Je pense que c'est en fait, les dégâts qui ont été faits maintenant, clairement, prendront plusieurs générations à être réparés, on va dire, par ceux probablement qui feront le plus d'enfants, du coup.
Quelle que soit leur religion, leur groupe, philosophie politique.
Leur étiquette, ouais, c'est ça. Quelle que soit leur étiquette, c'est ceux qui feront le plus d'enfants qui gagneront en définitive, puisque finalement, c'est ça, c'est la démographie qui fait la politique, hein, clairement.
Les morts gouvernent les vivants.
Ah oui, bon, ouais, ça.
Merci beaucoup à tous nos auditeurs pour nous avoir écoutés jusqu'ici. Et nous nous retrouvons très vite pour un autre numéro de Diptyque. Merci d'avoir été si nombreux. Un petit remerciement en passant aux éditions Carmin qui nous ont permis de lever les fonds et à tous les contributeurs qui ont réussi à nous envoyer leurs dons et à participer à ce podcast.
Merci beaucoup d'avoir été là et on vous dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Diptyque. But